à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de la radio de la dictée ultime. L'équipe a bien grandi. Je ne vous en dis pas plus, à part que Lucas nous présentera sa rubrique internet.
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons exploité deux catégories du monde de YouTube. Le gaming et le paranormal, mais il en reste beaucoup d'autres comme l'high-tech, la beauté, l'humour, le vlog ou encore la musique. Mais aujourd'hui, on va parler de la vulgarisation scientifique. D'abord, qu'est-ce que la vulgarisation scientifique ? La vulgarisation scientifique, c'est le fait de mettre des formules et des principes scientifiques à portée de tout le monde. Et c'est tout. Maintenant, nous allons découvrir notre cobaye, Squeezie.
Tu devrais pas plutôt nous parler de Dr. Nussmann ?
Si, je me suis juste trompée. Donc, Dr. Nussmann, raconte-nous ce que tu fais.
Tu sais bien qu'il n'a pas répondu à ton mail.
C'est vrai. Bon, arrêtons nos blagues et concentrons-nous. De son vrai nom, Germain Olivry, plus communément appelé Dr. Nussmann ou tout simplement Nussmann, est un YouTuber de vulgarisation scientifique qui a le 22 300 abonnés. Il est très connu pour avoir créé la mode du N-spinner. Il est créateur de concepts de vidéos comme Vrai ou Faux, où il demande à ses internautes de lui livrer des facts vrais ou faux pour y répondre dans une vidéo après. Les expériences peu chères, où il présente des tutoriels peu coûteux. Les étonnants objets scientifiques, la série où la mode du N-spinner est née. Gigavlog, où il montre ses études de SVT, dissection, etc. Opening de Géode, où il ouvre des pierres appelées Géode pour étudier ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'est pas que YouTuber, il a une émission sur l'application Science et Vie Junior, où il vulgarise toujours des principes scientifiques. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt, car la science n'attend pas.
Merci Lucas d'avoir interverti Squeezie avec ton sujet. Bon, après cette découverte d'un YouTuber, passons au reportage de Seiya.
Salut les internautes, ou encore les gens. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau reportage. Je vais vous révéler les difficultés et les bons côtés avec la radio des... Commençons. Les difficultés. Quand tu commences la radio, tu n'es pas forcément habitué à parler devant un micro, écrire un texte, être publié sur le site du collège que tout le monde peut voir. Ça peut être très gênant, bien sûr. Mais bon, au bout d'un moment, on s'habitue, c'est le principal. Ensuite, les bons côtés. L'équipe est super, on vous donne des conseils, mais c'est pas tout. Car il y a des choses encore qu'il faut rester à explorer. Voilà, vous en savez un peu plus sur les coulisses de cette émission. Donc je vous dis bonne journée et ciao!
Merci pour ce reportage, Seiya. Ensuite, passons aux fans de gaming par un premier jeu présenté par Marvin.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. C'est quoi Pokémon ? C'est une aventure d'un personnage avec son ami Tilly à la recherche de Pokémon dans 4 îles différentes. Il y a plusieurs types de Pokémon, les types eau, les types feu, les types plante, etc. Solgaleo et Lunala sont les deux Pokémon légendaires principaux. On ne les capture qu'après avoir vaincu la Ligue. Puis Ultra Necrozma dans Ultra Mégaléopole. Necrozma, il est capturable dans le monde Lanaquila avant de finir la Ligue Pokémon. Quand on a le Pokémon légendaire, on peut le faire fusionner avec Necrozma. Puis ça donne l'Ultra Zélite pour qu'il devienne l'Ultra Necrozma. Les trois starters sont Flamiaou, Otaquin, Brindibou. Les starters, c'est les premiers Pokémon qu'on doit choisir au début de son aventure. On doit choisir en premier avant d'aller battre Pectorius et obtenir un cristal Z et un bracelet Z qui fonctionne avec les cristaux Z. Il y a dans Ultra Soleil et Ultra Lune de nouvelles Ultra Chimères. Les Ultra Chimères, c'est des Pokémon très anciens qu'on ne connaît pas dans les autres versions, à part Pokémon Soleil et Lune. Bye bye, au revoir.
Bien, comme ça tout le monde pourra l'avoir, mais faut déjà l'acheter. Et pour le deuxième jeu, peut-être que vous le connaissez, il est présenté par Hugo et Nathanael.
Fortnite est un jeu vidéo de stratégie de combat en deux versions. Le plus connu est la version Battle Royale, logique qu'elle soit connue par elle et gratuite. Le but est que l'on est 100 sur une île. On doit sauter du Battle Bus qui vole et qui nous amène sur l'île, puis ramasser des âmes pour rester le seul survivant de la partie. Voilà pour la version Battle Royale.
Ensuite, la version Sauver le Monde. Il faut survivre à des attaques de zombies, protéger la terre entière et repousser la tempête d'un gaz toxique qui menace l'humanité. Il faut ramasser des matériaux pour créer des bâtiments et des armes. Il faut les améliorer. Il faut protéger la base des attaques des zombies. On peut y jouer seul ou à plusieurs sur PS4, Xbox One, PC et très prochainement sur smartphone et tablette. Attention, la version Sauver le Monde est payante mais de qualité avec son scénario. Amusez-vous bien et rendez-vous au top 1.
Après les jeux, parlons sport, présenté par Fabio. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aller vous parler du basket. Le basket est un sport collectif. Il y a plusieurs clubs. Les clubs de basket sont composés de plusieurs équipes. Baby, U9, U11, U13, U15, Senior Homme et Senior Femme. Le U de U9, U11, etc. veut dire Undercad en anglais. Mais en français, cela signifie en dessous de 9 ans pour U9, en dessous de 11 ans pour U11. Après, je vais aller vous parler de la taille des paniers. Chaque équipe n'a pas la même taille, donc ils n'ont pas la même taille de panier, ce qui est totalement logique. Les Baby jouent sur des paniers que l'on trouve dans des magasins de sport classiques. Les U9 et les U11 jouent sur des paniers à peu près 1m50. Les U13, U15, U17 et les seniors jouent sur des paniers de professionnels à peu près 3m du sol. Après, les règles du basket. Les règles du basket sont assez simples, c'est presque comme au handball, mais bon, je vais quand même vous les réexpliquer. Tu n'as pas le droit de faire plus de 2 pas sans dribbler, sinon cela fait une faute. Lorsque tu as le ballon, ça s'appelle un marché. Il n'y a pas le droit de s'arrêter, de dribbler et de reprendre. Ça s'appelle une reprise de dribble. Tu n'as pas le droit de toucher le ballon avec ton pied, sauf si c'est involontaire. Cela s'appelle un pied. Tu n'as pas le droit de pousser, taper, barrer la route en lui tapant le bras et de faire des prises à deux. Les prises à deux sont lorsque nous sommes 2 sur un joueur. Ceci s'appelle des fautes, toutes simples, voilà. Et il y a les règles des 5, 15, 24, 10 secondes, mais c'est assez dur à expliquer. Sur le terrain, nous sommes en tout 10, en comptant ceux qui sont sur le banc de touche, et nous sommes 5 sur le terrain. C'est-à-dire, nous sommes 10 au maximum. Après, je vais aller vous parler de la table des marques assez rapide, parce qu'il y a énormément de choses à dire. La table des marques est une table qui sert à aider, entre guillemets, les arbitres, au cas où ils aient oublié les fautes des joueurs. Parce que, par exemple, il n'y a pas le droit de faire plus de 5 fautes au basket, sinon, c'est comme un carton rouge au foot, nous sommes expulsés du terrain. Et voilà, maintenant je vous ai parlé du basket, et j'espère que ça vous donnera envie d'en faire.
Bon, maintenant, faut se muscler. Et la rubrique pour la fin, la rubrique d'Eliott.
Bonjour. Ah, je suppose que vous attendez tous un nouveau jeu pixel art indépendant créé par un studio au Groenland. Eh ben ça tombe bien, car on ne va pas parler de jeux vidéo aujourd'hui. Enfin, si, mais pas vraiment. Bref, Aujourd'hui, on va parler de musique dans le jeu vidéo. Si vous ne jouez pas trop souvent aux jeux vidéo, vous devez sûrement vous demander quel rapport y a-t-il entre la musique et le jeu vidéo. Et c'est complètement légitime. Enfin, si vous n'avez jamais regardé de films, de dessins animés ou n'importe quel produit audiovisuel. Et en effet, la musique et le son en général ont une place très importante pour favoriser le réalisme et l'immersion d'un film ou d'une série. Et c'est exactement la même chose dans un jeu vidéo. Plusieurs jeux ou films sont d'ailleurs connus pour leur bande-son et leur ambiance incroyable. Des jeux comme Ori and the Blind Forest ou Undertale et des films comme Star Wars sont de très bons exemples. Bref, la musique d'un jeu ou d'un film est essentielle à son ambiance. Par exemple, n'importe quel jeu d'horreur doit avoir une bonne OST. Ah, et pour les anglophobes, OST signifie Original Soundtrack, soit bande-son originale dans la langue d'Offenbach. Et donc, Outlast l'a bien compris. Ce jeu vous alerte dès le menu principal que votre cœur va passer un sale quart d'heure. Et c'est justement ça qui fait qu'un jeu a une bonne OST ou pas. Si grâce à n'importe quelle musique de la bande-son, vous pouvez à peu près deviner quel jeu est-ce, dans quelle situation, quelle partie du scénario, ou même quel moment exact du jeu le joueur se trouve, c'est que l'OST est parfaite. Et malheureusement, ça n'existe pas. Mais comme n'importe quel média, on n'est pas arrivé à ce niveau d'immersion et de beauté directement. En effet, la musique dans le jeu vidéo a bien sûr suivi l'évolution de son support, à savoir les consoles de jeux vidéo. On ne va pas parler des jeux sur PC ici, tout simplement parce qu'ils sont arrivés plus tard dans l'industrie du jeu vidéo, et surtout, ils avaient l'avantage non négligeable d'avoir des meilleures puces et des cartes son externes ou des lecteurs CD avant les consoles. Bref, au début, avec la première et deuxième génération de consoles, le son dans le jeu vidéo était souvent juste composé de bip et de piou-piou, peu agréable à l'oreille, et la musique était plus une contrainte qu'autre chose pour les développeurs. Cependant, avec l'arrivée de consoles de troisième génération, comme la NES ou la Mega Drive, des musiques emblématiques sont arrivées, comme le thème de Super Mario Bros, composé par Kondo Goji, ou celui de Sonic. La musique dans le jeu vidéo va donc peu à peu évoluer pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Les puces sonores étant aussi perfectionnées que celles des ordi, il n'y a plus de guerre comme il y avait entre la Mega Drive et la Super Nintendo.
Mais ton droit Elliot, c'est quoi la Mega Drive et la Super Nintendo ?
Ah oui, alors, les moins rétro de, et les plus jeunes d'entre vous ne connaissent sûrement pas la Mega Drive, aussi connue sous le nom de Genesis aux États-Unis, et la Super Famicom, vendue chez nous sous le nom de Super Nintendo ou Super NES. C'est simplement deux consoles de quatrième génération qui ont respectivement succédé à la Sega Master System et à la NES. Il y a eu une grosse guerre entre la Mega Drive et la Super Nintendo. En effet, alors que la Super Nintendo avait une puce Sony avec 8 canaux audio, ce qui signifie que seuls 8 instruments différents pouvaient être joués en même temps, la Mega Drive bénéficiait d'une puce Yamaha qui, même si elle n'avait que 6 canaux audio, avait un oscillateur basse fréquence, indispensable pour jouer de belles basses ou de belles percussions, et tout cela grâce au savoir-faire de Yamaha, un leader dans le secteur de la musique électronique. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'enregistraient tout simplement pas des sons en studio pour les mettre ensuite sur les cartouches de jeu ? Ça aurait évité de faire la guerre à coups de canaux audio et d'oscillateurs, non ? Ah, très bonne question, tiens. Eh bien, c'est tout simplement car, à l'époque, stocker des extraits audio directement sur une cartouche était impensable. Pour vous dire, la cartouche du premier Super Mario Bros. Ne représentait que 32 kilo-octets. Pour les moins gamers d'entre vous, c'est l'équivalent d'un fichier texte sans aucune image dans OpenOffice, et à l'époque, c'était énorme. Et pourtant, tout le monde connaît la musique de Super Mario Bros. Il était alors plus économique de créer des suites d'instructions pour la machine plutôt qu'enregistrer ne serait-ce qu'un seul extrait musical. Voilà pourquoi le nombre de canaux audio importait à l'époque. Car plus il y a de canaux audio, plus on pouvait faire d'arrangements variés. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus ces limitations. C'est pour cela que la musique n'est plus une contrainte pour les compositeurs de jeux vidéo. Car ils peuvent maintenant laisser libre cours à leur imagination, sans se soucier, ou presque, de l'espace que prendra leur musique. D'ailleurs, plusieurs jeux sont maintenant basés sur la musique elle-même, comme Dimo, un sublime jeu mobile, dans lequel le joueur doit reproduire de magnifiques musiques au piano, mais aussi le bien plus célèbre Piano Tiles, qui a à peu près le même concept. La musique a pris une place de plus en plus importante dans les jeux vidéo, principalement les jeux indépendants. C'est en prenant quelques exemples cités précédemment comme Undertale ou Ori and the Blind Forest qu'on se rend compte de cette place. La musique va créer une émotion, une ambiance particulière qui peut complètement changer l'expérience et les souvenirs du joueur. Ori and the Blind Forest est d'ailleurs l'un des premiers jeux vidéo à m'avoir fait pleurer. Non pas de tristesse, non, mais de joie, la plus pure des joies. Celle qui vous réchauffe le cœur. Celle qui vous transporte dans un autre monde. Celle qui est indescriptible, car trop personnelle. Mais à la fois, commune à n'importe quel être humain. Le style graphique et la musique sont tous deux absolument géniales. Et se marient très bien ensemble. L'histoire est franchement bien faite. Et je n'hésiterai pas un instant à acheter un deuxième opus de cette qualité. Si jamais ils lancent... Ils vont sortir un nouvel opus. Désolé, c'est un peu d'excitation. Où en étais-je? Ah oui. Mais il y a aussi un autre jeu, un peu moins connu, hein, s'appelant Undertale, qui est un peu moche, mais bon, les musiques sont plutôt pas mal. Non, en vrai, ce jeu est magnifique, auditivement parlant. Il arrive à faire passer un très bon message avec des graphismes en pixel art plutôt simples. Mais surtout, il va vous faire passer des heures à écouter sa bande-son, tellement il est de bonne qualité. D'ailleurs, le développeur d'Undertale est un musicien avant d'être un programmeur, ce qui lui a, entre autres, permis de mettre l'accent sur ses magnifiques musiques et l'ambiance du jeu, ou l'interface utilisateur, très minimaliste. Est-ce une bonne chose ou pas? Vous êtes seul juge. Je dirais personnellement que oui, étant donné que le fait que Toby Fox voulait reproduire avant tout les vieux styles de RPG. Mais bon, si vous préférez naviguer à travers votre inventaire à la vitesse de la lumière, tant mieux pour vous. Bref, lorsqu'on parle des meilleurs moments d'un jeu vidéo, la musique permet de se retrouver tous, de partager une émotion, mais elle permet aussi, parfois, de se remémorer, de garder en souvenir des moments qui se seraient autrement effacés. La musique influence nos émotions, nos souvenirs et notre façon de jouer. Pour moi, la bande-son d'un jeu vidéo est essentielle à son ambiance et à sa qualité. Si l'absence d'une musique constitue littéralement l'ambiance du jeu, eh bien, tant mieux pour lui. Mais dans n'importe quel cas contraire, une mauvaise OST ou même l'ambiance de musique est impardonnable. Sauf bien sûr pour des très petits jeux indépendants. J'ai d'ailleurs redécouvert ça il n'y a pas longtemps grâce au jeu Soma, où l'ambiance sonore est incroyablement silencieuse, pesante et presque réaliste. Mais j'ai aussi redécouvert autre chose il n'y a pas longtemps, le chiptune et le 8-bit music. Il s'agit d'un style de musique qu'on pourrait définir comme le pixel art de l'audio. Il consiste à baser les instruments, le rythme, les tonalités et plein d'autres paramètres comme ceci sur les limitations des machines de 3e à 5e génération. Globalement, ça ressemble à ça. Bref, je ne suis pas un expert musicien ou un sound designer, donc prenez cette chronique plus comme une petite remarque, ton but était surtout de vous encourager à prêter plus attention aux jeux qui vous entourent lorsque vous jouez à un jeu vidéo ou regardez une série. Tendez l'oreille 2 minutes lors d'une scène d'action ou lors d'un moment de tristesse et vous sentirez le génie, ou pas, des compositeurs. Sur ce, je retourne à ces musiques de sauvage qu'on appelle hip-hop et rock. Ah, et un dernier conseil avant de partir. Si vous aimez bien un jeu vidéo, la première chose que vous pouvez faire, c'est déjà l'acheter, mais surtout acheter la bande-son, qui sont la plupart du temps vendues séparément dans les cas des jeux indés, ou trouvables facilement sur Bandcamp ou SoundCloud, ou Spotify même, dans la plupart des cas. Ce sera une autre façon de supporter l'équipe qui a rendu ce jeu possible. Et bien sûr, n'oubliez jamais de partager et de financer, quand vous en avez les moyens, les choses que vous avez le plus aimées, que ce soit jeux vidéo, séries télé, sites, vidéos, ou même émissions de radio. Bref, bye!
Comme a dit Jean-Jacques Goldman, la musique est bonne. Nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne nuit. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et ciao ciao!